7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, à 3 jours des élections au Brésil, nous nous intéressons aux inégalités sociales dans ce pays de 208 millions d'habitants qui compte 23 millions de pauvres et 13 millions de chômeurs. Au Brésil, ces 10 dernières années, les loyers ont doublé à Rio et à São Paulo, la capitale économique où près de 11% de sa population vit dans des quartiers précaires. Au-delà des divisions politiques dont on parle beaucoup évidemment ces derniers temps, des divisions profondes dans la société brésilienne et puis du désenchantement aussi généralisé, les inégalités, la sécurité, la lutte contre la corruption font partie des enjeux de la campagne. Nous vous proposons un reportage dans une favela, pas comme les autres, de la banlieue ouest de São Paulo à Osasco. Cette favela est entièrement gérée par des femmes. Et puis ensuite, pour mieux comprendre le contexte social des élections au Brésil, je reçois Armel Enders, spécialiste du Brésil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne à l'Université Paris 8, chercheuse à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. On entendra aussi une jeune brésilienne de 24 ans, Laís Rocha Lian, qui est architecte urbaniste. Elle dirige des équipes de bénévoles qui collectent des données dans les favelas, notamment sur le manque de logements, pour ensuite pousser les politiques à agir dans ces quartiers.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Mais tout de suite, direction São Paulo, une métropole de près de 20 millions d'habitants dans la commune d'Osasco. C'est ici, le long d'une colline, dans la grande zone industrielle de la capitale économique, à quelques kilomètres de l'immense usine Coca-Cola. C'est là qu'est née l'Occupation Esperança, un nom donné à la favela en mémoire du combat pour l'occupation des terres, entamé par ses habitants il y a maintenant 5 ans, enfin je devrais dire ses habitantes, puisque celles que nous allons entendre ont entre 25 et 65 ans. Elles sont venues, ces femmes pour la plupart, en tant que femmes, mères célibataires, à la recherche d'un toit, mais surtout d'une vie meilleure, à la tête du mouvement Irene Maestro, qu'on entendra tout le long de ce reportage. Les habitantes de l'Occupation Esperança ont pensé un nouveau mode d'émancipation. C'est un reportage de Margot Emmerich.
Bonjour, bonjour. L'occupation va avoir 5 ans en août. Et on arrive à la fin d'un processus juridique. Bientôt, on aura plus de force grâce à un décret qui devrait nous permettre d'obtenir une prescription acquisitive, c'est-à-dire d'acquérir le terrain officiellement. Depuis 5 ans, on vit avec un accord de la mairie qui nous autorise à utiliser le terrain dans un objectif de bien commun, de bien social. Et c'est comme ça qu'on a pu créer les maisons.
Pedindo o uso do terreno para bem comum, para bem social, que é para moradia.
Mais c'est seulement au bout de 5 ans que la prescription acquisitive tombe et nous permet d'acquérir le terrain. Je vous présente Irène.
A maioria são do Nordeste, né?
Ici, nous sommes nombreux à venir du nord-est du Brésil, car c'est la région la plus pauvre. On est venu chercher une vie meilleure, du travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration, car la région de São Paulo est le cœur du Brésil.
Voilà Odeta, c'est l'une des militantes du mouvement. Et je vous présente Sofia, l'une des pionnières de l'occupation aussi.
Et vous, Irène, vous êtes là depuis quand ?
Na verdade, a ocupação começou foi em agosto de 2013, mas na verdade a gente tinha feito uma ocupação antes.
L'occupation ici existe depuis août 2013, mais en réalité, le mouvement existait déjà avant dans un autre endroit. Les familles occupaient un espace dans un autre quartier de São Paulo, mais elles se sont fait expulser, alors elles sont venues occuper ce terrain-là. Ça fait maintenant 6 ans que le mouvement existe et que la lutte continue malgré le premier échec.
E aí, só que pra gente, não só lutar pela moradia, que é um problema estrutural, né, e com várias terras.
Au Brésil, le problème du logement est structurel. On a beaucoup de terres et de maisons abandonnées. Le paradoxe, c'est qu'à São Paulo, il y a plus de logements inoccupés que de personnes sans logement. Et il n'y a aucune politique pour combattre cela. Depuis la dictature, pas un seul gouvernement n'a mené une politique audacieuse pour s'attaquer au problème du logement. Donc pour nous, il ne s'agit pas seulement d'entrer sur le terrain, de construire sa maison et de penser que c'est fini. Il s'agit de construire des expériences d'auto-organisation du peuple. Nous avons bâti un modèle où on décide collectivement, tous ensemble, à travers des assemblées populaires. Notamment, on essaie de régler ensemble la question des violences conjugales et de la culture machiste qui existe dans la société.
Tout ce que nous avons conquis jusqu'à maintenant, c'est faire une lutte, donc les expériences de culture. Donc, Ari várias vezes fala isso, que assim, sem ter dinheiro nenhum, sem ter recurso.
Tout ce qu'on a conquis, c'est entièrement à travers la lutte. Sans argent, sans soutien de la part de l'État, tout ce qu'on a construit, c'est sans l'aide de personne. Mais plus qu'une occupation de terrain, notre aventure est politique et culturelle. Aujourd'hui, les habitants de la favela ont accès au théâtre, au cinéma, à des choses qu'ils n'avaient pas en dehors. Ils ont créé des règles communes qu'ils respectent et les résultats sont là. En 5 ans, il n'y a pas eu un seul homicide dans la favela, alors que la violence est un problème récurrent dans toutes les villes du Brésil. Nous avons réinventé une façon de vivre ensemble. Et maintenant, on aimerait pouvoir devenir un exemple dont les autres peuvent s'inspirer, pourquoi pas, pour repenser la ville. Et si on peut organiser un quartier sans l'aide de personne, en construisant des rues, en décidant des horaires, des règles, par exemple, où sera l'espace de jeu des enfants? Si on arrive à faire ça dans un quartier, à partir de rien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans une ville, dans un pays, même dans le monde entier?
Começou a ocupação, a gente entrou com umas 100 famílias, né?
Au tout début du mouvement, après la première réunion, nous étions 100 familles. Et puis des voisins, des amis, des proches ont commencé à affluer. Si bien qu'en 15 jours, le nombre de familles est passé à 1000, puis 12 000 en un seul mois. Mais comme la lutte est difficile, beaucoup d'entre eux ne sont pas restés ou ont simplement voulu tenter l'expérience par curiosité. Du coup, depuis environ 2-3 ans, le nombre de familles s'est stabilisé à autour de 500. Parmi ceux qui sont là depuis le tout début, les coordinateurs du mouvement aident aujourd'hui les nouveaux arrivants à organiser d'autres occupations.
On parle beaucoup de l'organisation collective. Vous nous disiez qu'il y a vraiment quelque chose de très représentatif ici. Ce sont les grandes cuisines, justement, partagées.
Tinha as cozinhas coletivas, mas tinha outras coisas também. Então a gente se organizava em coordenações.
On a 3 cuisines qui fonctionnent collectivement et c'est comme ça pour tout. On s'organise en équipe avec des responsables pour la cuisine, les infrastructures, les routes, l'électricité, la culture ou les enfants. Et tout le monde participe.
On s'arrête là effectivement juste au milieu en fait, de la grande rue, on est face à ce grand terrain. Irène, c'est ce projet de crèche dont vous nous parliez quand on était en bas de la favela. L'idée va être d'avoir une crèche à l'intérieur pour tous les enfants des familles de la favela.
Une des préoccupations nossas est beaucoup le negócio das crianças. A gente separou a crèche.
L'une de nos préoccupations quotidiennes, c'est de gérer les enfants, de bien s'en occuper. Alors nous avons ce projet de crèche, et puis on essaie de mettre en place des activités pour les enfants, comme des cours de capoeira tous les samedis, ou le cinéma le week-end. Mais c'est vraiment toujours vu comme un processus d'éducation. Toutes les activités, même la capoeira, doivent permettre à chacun de s'investir dans la favela.
Que aí é uma coisa à parte, que é desde o comecinho da ocupação.
Et puis bien sûr, il y a les réunions de femmes qui existent depuis le début. Le but, c'était de se réunir une fois par semaine pour parler de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Aussi bien des problèmes dans nos couples, nos foyers, notre famille, jusqu'à l'insécurité qu'on peut ressentir dans les rues. Mais on y parle aussi de la place des femmes dans la lutte, à l'intérieur de l'occupation. On a par exemple mené une campagne de sensibilisation contre la violence et on essaye au maximum d'impliquer les femmes qui ont pu être confrontées à de la violence.
En cas peut-être de violence ou de situation un peu radicale, est-ce qu'il y a des règles justement? Est-ce que quelqu'un peut être exclu?
Quand acontece un cas de violence,
si on nous signale un cas de violence conjugale, la première chose que l'on fait, c'est d'organiser une commission uniquement avec des femmes pour discuter avec la victime. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, on l'écoute et on discute de ce qu'elle voudrait faire. On va ensuite parler avec l'homme en question. On peut alors décider de l'exclure de la communauté ou de lui donner une chance. Mais si la victime n'en peut plus, alors c'est elle qui reste avec ses enfants et c'est l'homme qui s'en va.
E aí, enfim, tem essa organização das mulheres que é muito forte, que aí é para dentro da ocupação, mas também para fora. Então, por exemplo,
et petit à petit, cette organisation a pris du poids, et pas uniquement à l'intérieur de la favela. Vous voyez, en face, là-bas, il y a une école dans laquelle vont la plupart des plus jeunes enfants. Or, il y a quelque temps, cette école a fermé. Alors les femmes ont décidé d'agir, pendant leur réunion, pour rentrer en contact avec les autres mères d'élèves pour organiser une forme de lutte et de pression contre la mairie pour exiger la réouverture de l'école. Et l'année dernière, elles ont réussi à l'obtenir. De la même manière, on essaie de créer des liens avec d'autres mouvements, comme avec les employés de l'usine Coca-Cola qui est juste à côté, et dans laquelle travaillent de nombreux hommes de la favela et qui connaît énormément de problèmes de surexploitation des employés. On a déjà organisé de nombreuses manifestations sur place. On a aussi des liens avec les communautés indigènes qui vivent près d'ici à la campagne. L'objectif, c'est vraiment de renforcer nos luttes avec d'autres mouvements de la région. On s'est inspiré de la Commune de Paris, de la Révolution russe, des Zapatistes et d'autres expériences similaires dans l'histoire, comme dans les retomadas indigènes. C'est une caractéristique très forte de notre philosophie, cette perspective d'indépendance de classe. On ne reçoit d'argent de personne, aucun chèque de la part d'entreprises, ni des patrons, ni des gouvernements ou des partis politiques. Ceux qui veulent nous aider sont les bienvenus tant qu'on garde notre autonomie.
Não tem nenhuma política, mesmo, por exemplo, na Europa tem várias políticas habitacionais.
En Europe, il y a eu plusieurs politiques de logement social, mais jamais au Brésil. Le BNDES, qui est une grande banque qui investit dans des projets sociaux, a financé la construction de logements, mais ce sont de très gros projets qui isolent les gens de la ville dans des conditions très précaires et vous devez vous endetter pour le reste de votre vie. Personne ne s'attaque à la question des terres. Au Brésil, c'est une source de problèmes sociaux. Personne ne s'y attaque. Au contraire, les gouvernements renforcent ce problème.
7 milliards de voisins, reportage au Brésil, dans la banlieue de São Paulo, dans une favela gérée par des femmes à Osasco. Il existe plusieurs favelas sur le même modèle de l'occupation Esperança. La plus proche se situe un petit peu plus au nord, à Belo Horizonte. Mais celle d'Osasco est la seule à être gérée intégralement par des femmes. Alors le cadre, je crois que vous l'avez compris, ne fait pas rêver. On aperçoit de grandes plateformes bétonnées d'où partent des semi-remorques chargées de soja ou de sucre. Mais pour certaines habitantes, c'était l'espoir d'un renouveau. Celle que nous allons entendre est arrivée il y a 4 ans. Elle raconte les débuts très difficiles.
Era mais a parte de, do saneamento básico, porque aqui a gente não tinha de forma alguma.
Le plus dur au départ, c'était l'eau. Il a fallu gérer l'assainissement de base, monter des équipes pour avoir de l'eau, créer des espaces pour les enfants, car ils sont très nombreux. Donc on a eu besoin de se serrer les coudes. Et on a toujours besoin de soutien pour aider les mères avec des enfants en bas âge. Le plus difficile, c'était vraiment ça au départ. Faire face au froid, avoir de l'eau, répondre aux besoins basiques de la communauté.
Mais aí... quando a gente começou a galera se unir a fazer mutirão de limpeza.
Mais quand on a commencé à s'unir, à s'organiser collectivement pour le nettoyage, pour la cuisine, ça nous a beaucoup aidé et soulagé dans notre quotidien.
Olha, a garra, a força, a determinação de um dia melhor.
Le fait d'être un groupe de femmes solidaires, ça permet à la communauté de s'accrocher, d'avoir de la force, d'avoir de la détermination pour construire un meilleur quotidien. C'est difficile de mettre des mots sur ce que nous vivons. C'est le bonheur de simplement coexister au jour le jour, avoir un mot amical, se réconforter dans les moments difficiles. C'est ça qui fait la différence. Nous sommes toutes ici depuis le début de la lutte et on se transmet ce qu'on sait et ce qu'on a appris. Et c'est ce qui nous donne toujours plus d'espoir pour l'avenir. C'est cette union entre nous qui fait toute la différence. Et là d'ailleurs, vous voyez autour de vous, ce ne sont que des anciennes de l'occupation.
Et justement, quelques mètres plus haut, Susana Mendes, 32 ans, t-shirt rose, mèche blonde, elle est au milieu des gravats, elle fait une pause appuyée sur un pilier enlacé de câbles électriques. Susana est responsable de la coordination de l'eau dans la favela, l'un des postes clés.
Então, aqui na comunidade a gente é bem carente de água, né? Tem alguns pontos de água em alguns determinados lugares. Então,
que... Oui, je m'occupe de cette coordination car dans la favela nous manquons toujours d'eau. Il n'existe que quelques points d'eau à certains endroits, alors on s'est organisé en zones et chaque zone a sa pompe à eau car nous n'avons pas suffisamment de pression pour atteindre le haut de la favela. Ici, à côté du terrain de foot, c'est moi qui gère la zone et qui administre l'eau. En tout, nous sommes 32 à nous occuper de l'eau dans la communauté. La pompe est active à 7h du matin jusqu'à 17h, donc c'est le moment où on peut s'approvisionner en eau.
Porque muita gente é carente financeiramente, então não tem condições de ter uma reserva, uma caixa de água, no caso. Então...
Il y a beaucoup de personnes très pauvres ici, qui n'ont pas les moyens d'avoir un réservoir chez eux. Alors entre 7h et 17h, ils remplissent des seaux, des bassines, des bouteilles pour les stocker chez eux.
Et j'imagine que c'est rare d'avoir une femme à ce type de poste avec autant de responsabilités.
Je pense que les femmes sont meilleures dans les tâches administratives car nous nous occupons déjà de notre foyer. On a l'habitude de gérer la maison, d'emmener les enfants à l'école, donc on sait faire. Nous, nous voulons que notre communauté soit bien organisée, plus jolie, plus propre. Alors dans la rue, on s'occupe aussi de l'entretien, quand les mauvaises herbes poussent, on les arrache.
Et c'est vous qui avez choisi ce poste ou est-ce qu'on vous l'a assigné au départ ?
Non, na realidade, eu escolhi fazer. Foi eu que escolhi, porque a gente precisava muito de água.
Oui, parce qu'on avait vraiment, vraiment besoin d'eau. Notre pompe était cassée et on est resté 9 jours sans eau. Donc j'ai décidé de m'engager dans la lutte à mon tour. J'ai appelé tout le monde en renfort, j'ai dit qu'on devait s'organiser, qu'on en était capable. Et aujourd'hui, au moindre problème, les gens viennent frapper à ma porte pour me demander un coup de main ou pour me faire un compliment.
Vous dites qu'aujourd'hui vous vous sentez capable d'accomplir cette tâche. Qu'est-ce qui a changé ? Ça veut dire qu'avant vous n'auriez pas été capable de le faire ?
Avant, c'était d'autres personnes qui s'en chargeaient. Mais quand il y a eu un incendie dans la favela, plusieurs personnes sont parties et plus personne n'était responsable. Alors j'ai pris le relais.
Et Susanna, vous, je crois que vous habitez là depuis le début de l'occupation. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici au départ ?
Depuis 6 mois, quasi 7, je suis venue ici en mars 2014.
Je suis arrivée ici en mars 2014, environ 7 mois après le début. Ce qui m'a motivée, c'est que je ne pouvais plus payer le loyer. Je ne pouvais plus payer et je voulais avoir ma propre maison. Quand vous devez payer le loyer, payer l'électricité, payer l'eau, en plus des dépenses de loisirs, d'alimentation, de vêtements, c'est impossible de mettre de l'argent de côté pour acheter une maison. Et même aujourd'hui, pour louer une maison, c'est absurde. Il faut avoir un salaire 3 fois plus élevé que le loyer. Même avec 2 personnes qui travaillent, avec ce qu'on gagne aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut payer une maison. C'est vraiment compliqué.
Si on n'a pas une opportunité, c'est difficile. Et payer un loyer, comment vous allez joindre cet argent ?
Et finalement, quand on a décidé de venir ici avec mon époux et mes 2 enfants, on a été bien reçus. On a eu le soutien de beaucoup de monde parce qu'ici, les gens s'entraident vraiment. Dès que vous avez un problème, les autres vous aident.
Eliana Dias.
Je suis Eliana Dias.
A minha história na ocupação, eu estou aqui desde janeiro do ano passado, aproximadamente 1 ano e 4 meses, né?
Je suis ici depuis 1 an et 4 mois à peu près. Je suis arrivée avec mon ex-mari et mon échoppe fonctionnait comme un bar. Mais l'endroit était plein de trous, alors on a fait comme on a pu avec ce qu'on avait. C'était assez improvisé.
Aqui a comunidade, assim, em vista assim, de muitas que eu já vi, porque eu só participei de uma fora essa.
Avant de venir, j'ai participé à une autre occupation, mais nous avons eu un problème avec notre avocat qui ne nous a pas aidés. Donc c'est un peu ma seconde expérience ici. Et je crois que c'est vraiment un projet très fort, très différent de ce que j'ai pu voir ailleurs. Cette communauté a beaucoup à apporter et beaucoup à enseigner aux autres. On a de tout, le côté social, l'égalité. Et même ceux qui ont moins de moyens ne restent pas dans leur coin. Quand ils peuvent aider, ils le font.
Et les femmes en particulier ont leur place ?
Oui, si on regarde le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, ici les femmes sont leaders sur tous les plans. Ce sont elles qui font tout. Et je parle aussi pour moi. Quand je me suis séparée de mon ex-mari, j'étais ruinée. Mais je suis restée ici et j'ai tout recommencé à zéro. Aujourd'hui, je m'imagine plus vivre ailleurs. Parce que quand vous vous sentez enfin bien quelque part, vous voyez, dans d'autres communautés, si je laissais traîner une lampe dehors, je revenais et elle n'était plus là. Ici, je n'ai jamais eu ce problème. J'ai plein de matériel partout et quand je pars, même plusieurs jours, tout reste là. Mes voisins, c'est devenu comme ma famille.
Je m'appelle Tony Glades.
Elles mêmes réagissent.
Il se passe quelque chose ici.
Com a força que elas têm, que elas são muito mais inteligentes que os homens.
Les femmes agissent, elles ont de la force et elles sont beaucoup plus intelligentes que nous, les hommes.
Até pouco tempo atrás eu pensava diferente.
Je le pense sincèrement.
Antes de entrar,
et je ne pensais pas ça avant d'arriver ici.
Muito machista hoje em dia.
J'étais beaucoup plus machiste avant d'entrer dans la lutte populaire et j'ai changé quand j'ai commencé à vivre là, en voyant tout ce que nous avons et tout ce qu'ont fait ces femmes.
Et au milieu de la foule des femmes qui se sont rassemblées au centre de la favela, il y a Marina. Marina est en short, basket poussiéreuse. Il faut dire que la poussière est partout dans la favela. Elle est originaire du Nord-Est. Et pour Marina, l'occupation a aujourd'hui un goût de liberté.
Avant de venir ici, je travaillais, mais j'ai perdu mon emploi et je n'avais plus les moyens de payer mon loyer. Alors je suis venue avec d'autres femmes qui voulaient vivre dans l'occupation. Ici, l'endroit était déjà occupé depuis 2 jours. Ça a commencé le 23 et moi je suis arrivée le 25 avec 6 femmes. C'était des voisines qui, elles non plus, n'arrivaient pas à payer leur loyer. Quand nous avons entendu parler d'ici, nous sommes venus et nous sommes toujours là aujourd'hui. Je suis émue car nous, les femmes, beaucoup de gens pensent que nous ne pouvons pas être les meilleures. Mais si, on peut. Nous avons une force énorme. Alors quand nous sommes ensemble, regardez ce quartier. Il y a eu un incendie il y a 1 an et les femmes se sont jointes aux hommes pour tout reconstruire. Ensemble, nous ne faisons plus qu'un. Avant de vivre ici, j'avais peur de sortir de chez moi. J'avais honte de moi, je ne portais jamais de shorts car je ne voulais pas montrer mes jambes qui ont des varices. J'avais vraiment honte et je n'avais pas la liberté que j'ai aujourd'hui, depuis que je vis ici. Si je mettais des shorts, je subissais des remarques, j'étais victime de préjugés de la part des autres autour de moi. Je souffrais beaucoup à l'extérieur de la communauté. J'ai 6 enfants, ils ont tous été ou sont encore à l'université. 2 sont mariés et aujourd'hui je me sens fière de moi. Je peux transmettre ce sentiment à d'autres femmes qui se sentent encore opprimées. Tout ce que j'ai appris dans l'occupation, je peux le transmettre à l'extérieur. Ma famille aussi souffre beaucoup là-bas, dans le nord-est du Brésil. Ça doit être dans notre sang, dans notre race, de lutter. Je suis émue parce que si je pouvais tout donner aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui, je le ferais. Tant que je vivrai et que je serai en bonne santé, je continuerai à me battre pour mon prochain. Ma fierté est ici, je suis heureuse d'être comme je suis, de marcher comme je marche et de ne ressentir aucune honte. Encore moins de dire que je vis dans l'occupation Esperança. Je n'ai pas honte et je veux passer le message à ceux qui vivent en dehors et qui ont besoin d'un logement. Vous pouvez nous rejoindre pour occuper d'autres terrains. Les terres sont les nôtres, nous payons des impôts pour ça. C'est comme ça que je me sens victorieuse.
C'était un reportage signé Margot Emmerich dans la banlieue de São Paulo. Nous, Armel Enders, vous êtes en notre compagnie. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Brésil. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8 et chercheuse à l'Institut d'histoire du temps présent. Que vous évoque cette aventure féministe, sociale, avec un projet très politique par rapport à la situation du Brésil et à son histoire ?
Alors ça évoque la force quand même des mouvements sociaux et aussi un processus effectivement de féminisation des luttes enfin, qui est assez mise en avant ces dernières années. Et puis ça m'évoque aussi le cas de l'État de São Paulo et de la métropole, de la région métropolitaine de São Paulo, avec une population très, non pas particulière, parce qu'on la trouve dans tout le Brésil, mais il est question à un moment de communauté, enfin de campement indigène, en fait. Vous avez des. Alors, indigène étant le mot qu'on utilise pour dire indien au Brésil, indien étant un peu plus péjoratif. Donc, il y a des communautés indiennes qui restent dans l'État de São Paulo, même dans la ville même de São Paulo. Et puis, surtout, ces immigrés qui viennent du Nord-Est. Hein. Et ça, c'est un trait de l'histoire du Brésil au XXe siècle.
À cause du manque de travail.
Oui, de la pauvreté, de l'aridité. C'est des vagues d'immigration qui ont commencé au XIXe siècle et qui se sont intensifiées dans les années 1920 et toujours importantes maintenant, et qui vont vers les centres industriels qui étaient Rio de Janeiro et surtout São Paulo à partir des années 40. Il y a un nordestin célèbre, hein, c'est Luiz Inácio da Silva Lula, l'ancien président, qui est né dans le nord-est et puis dont les parents ont migré quand il était enfant à São Paulo.
Incarcéré à l'heure actuelle, faut-il le rappeler, condamné à 12 ans de prison et donc inéligible. Hein. Bien évidemment, on va évoquer la question des élections dans quelques instants qui auront lieu dimanche pour le premier tour. Concernant la problématique des inégalités sociales, du mal logement, on voit bien dans les témoignages que ça atteint quand même des sommets aujourd'hui. Les gens ne savent plus concrètement où habiter.
Oui, ça c'est pas nouveau, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a là une régression ces dernières années du Brésil depuis quelques années. Il faut rappeler que entre les années 2004 et puis jusqu'en 2013, c'est là que ça a commencé à se renverser. Il y a eu une conjoncture économique favorable, des politiques sociales, hein, qui ont été menées, une réduction importante du nombre de pauvres et des programmes de logement qui sont évoqués dans le documentaire qui s'appelle Ma maison, ma vie, et qui était donc financé par une banque publique, enfin des capitaux publics et privés, et qui était tout à fait à l'image de la politique sociale des gouvernements du PT, c'est-à-dire de joindre l'économique et le social. Ouais. C'est-à-dire que c'était censé aussi donner du travail au BTP, créer des emplois, etc., et permettre donc... Alors c'était effectivement... Enfin, ce sont des maisons qui sont un peu tristounettes et c'est un programme qui a beaucoup de limites. Et effectivement, là, il y a une autre proposition, il y a une proposition tout à fait alternative, mais qui...
Donc, on sent quand même, à travers ce modèle alternatif de favela géré par des femmes et qui se veut complètement autogéré, qui refuse l'argent de l'extérieur, sauf si c'est une aide concrète, matérielle, et qui ne menace pas l'indépendance de la gestion de la favela, mais on sent quand même un regard très critique sur, y compris sur les années Lula, sur les politiques sociales qui n'ont pas réglé la question des inégalités sociales et du mal logement surtout.
Oui, c'est un mouvement très politique. Là, on a une occupation, enfin une communauté, hein, puisque c'est le terme qu'on utilise au Brésil, le mot favela, nous qu'on utilise, a une connotation péjorative. Donc, quand on dit communauté, en fait, au Brésil, ça se réfère à ce que nous appelons favela. Et c'est cette communauté là, elle est née d'une occupation, c'est-à-dire d'une invasion volontaire organisée. Hein. Et visiblement, c'est une vitrine d'un mouvement politique. Hein. Je pense que la personne qu'on entend, Irène et Maestro, n'est pas de l'occupation. Je crois qu'elle est avocate. Enfin, c'est un projet politique, c'est ça. Et un projet politique qu'elle y. Enfin, si j'en ai pas la certitude, mais un parti politique d'extrême gauche qui est très critique vis-à-vis du PT, effectivement. Et
justement, concernant ces mouvements d'occupation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les favelas, alors les communautés, hein, pour ne pas utiliser le mot péjoratif, mais sont-elles toujours situées sur des terrains occupés illégalement? Quelle est la réalité de ces occupations?
Alors, les favelas en général, enfin les communautés se sont installées sur des terrains qui avaient des terrains vagues, mais qui souvent ont des propriétaires, hein. Ou des terres publiques, mais en tout cas c'est quand même une invasion, enfin une occupation de terres qui ont un propriétaire ou qui ne sont non bâties, dans les favelas anciennes, généralement, il y a une. Enfin, c'est tout un processus, c'est toute une industrie aussi, hein, de marchands de sommeil qui loue des terrains, qui loue des maisons.
Avec un vrai savoir-faire, avec des branchements sauvages, absolument, à l'électricité, etc.
Oui. Mais les habitants paient un loyer à quelqu'un qui n'est pas un vrai propriétaire. Mais enfin, en général, le problème aussi de ces quartiers, qu'ils sont tenus plutôt par la pègre, hein, que derrière les associations, vous avez les trafiquants ou des sortes de paramilitaires, hein, dans le cas de Rio. Enfin, et là c'est pas ce cas-là, mais c'est un cas relativement particulier.
Oui. Alors au-delà des cas d'homicide, de la sécurité, des meurtres, puisqu'on est dans l'un des dix pays les plus dangereux au monde, on sent dans les témoignages de ces femmes dans ce reportage une grande âpreté, une grande dureté dans les relations sociales.
Oui, et puis dans les relations de genre aussi, hein, entre les hommes et les femmes. Le Brésil est un des pays qui bat des records en matière de violence contre les femmes. Il y a une loi qui a été adoptée sous l'eau, là, justement, en 2006, la loi Maria da Penha, du nom d'une femme qui avait survécu à plusieurs tentatives d'assassinat de son mari et qui avait, dont le procès du mari assassin s'est traîné pendant des années au point de provoquer donc un durcissement de la loi. Bon, il y a une loi aussi contre les féminicides de 2015, mais les statistiques restent très, très alarmantes. Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est le rôle des femmes dans les milieux populaires, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de familles monoparentales et qui s'occupent des enfants qui réellement... Il y avait eu un projet d'ailleurs à Rio, c'était même plus qu'un projet, dans les années 80, de donner des titres de propriété aux femmes dans les communautés, dans les favelas, parce que c'était l'élément stable.
Qui n'a pas existé finalement.
Si, ça s'était fait partiellement, en tout cas sous un gouvernement donc local, hein, dans les années 80. Cette histoire des familles monoparentales est en train de ressurgir, là, justement à la faveur de la campagne électorale, parce que le numéro 2 le candidat à la vice-présidence, hein, du candidat d'extrême droite qui est en tête des sondages, qui est un général d'extrême droite aussi, a eu une déclaration tonitruante contre les familles monoparentales, c'est-à-dire contre les femmes seules, et en disant que c'était des fabriques de délinquants. Là, il y a quelques jours.
Pour séduire les milieux catholiques, notamment.
Et évangéliques.
Et évangéliques. Alors, quelle mobilisation de la société civile par rapport aux inégalités et au mal logement? Je vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune brésilienne, Laïs Rocha León. Elle a 24 ans, elle est architecte, urbaniste, et depuis près de 2 ans avec l'ONG sud-américaine TECO, bénévolement, sur son temps libre, elle collecte des données dans les favelas de sa ville afin d'alerter les autorités locale sur la nécessité d'agir. Charlie Dupiot l'a rencontrée à Bruxelles à l'occasion des Journées européennes du développement. La militante nous montre l'un des derniers rapports sur lesquels elle a travaillé.
Donc on met des photos de la communauté. Donc
ici c'est la communauté de Porteline.
Oui.
Cette favela est vraiment emblématique dans ma ville. Il y a un quartier riche qui s'arrête un peu avant la rivière. Et là commence la favela, entre le quartier riche et la rivière.
In Brazil, we have a law that you can't occupy, you can use, formally use areas.
Selon la loi au Brésil, on ne peut pas occuper l'espace dans une zone de 30 mètres autour de la rivière. Mais des gens se sont installés à cet endroit, car ils n'avaient pas d'autre option, nulle part où aller. Si vous n'avez rien, vous prenez un tas de bois pour fabriquer votre maison.
Et donc on voit que sur ce rapport, vous choisissez vraiment des photos où on voit la réalité des favelas, on voit là l'état des maisons, si on peut appeler ça des maisons, dans lesquelles vivent les gens, les câbles d'électricité aléatoires, des toits en tôle métallique, des déchets partout, la végétation au milieu des maisons.
And if you see the houses here in the corner, they are really high.
Et si vous regardez les maisons qui sont là, au coin, elles sont très hautes, elles sont sur pilotis. C'est à cause des inondations, quand l'eau de la rivière monte. Et vous voyez, ici, commence la partie statistique. On aime bien comparer la réalité de la favela avec celle du Brésil ou celle de la ville entière, Curitiba. Là, par exemple, nous avons des données sur l'éducation. 10% des plus de 18 ans ne savent pas lire dans la favela. Si vous allez dans le reste de la ville de Curitiba, ce chiffre tombe à 3%. Donc vous pouvez mesurer la différence. Pour l'université, c'est seulement 2% dans la favela.
Seulement 2% des habitants de la favela sont allés à l'université.
Oui. Là, nous prouvons le manque d'accès à l'éducation au sein de cette communauté.
Tout ça, ce sont des questions que vous avez posées aux habitants.
Nous posons à tous les mêmes questions, oui. Nous venons avec un document papier, comme pour un sondage. Nous frappons à la porte des familles. Nous leur demandons, est-ce qu'on peut vous interroger sur tel et tel sujet? Et chaque communauté compte près de 400 familles. Nous les interrogeons presque toutes.
Et vous êtes combien de bénévoles à agir dans une favela, par exemple?
En général, nous sommes entre 100 et 120. Et cela nous prend un week-end. Nous dormons 2 jours sur place et nous revenons tous les 2 ans.
Alors là, on voit donc un autre graphique.
Ici, ce sont les données du chômage. À Curitiba, dans la ville entière, le taux de chômage est de 9%. À Portelinha, dans la favela, il est de 15%. C'est difficile pour certains de trouver du travail, car ils n'ont pas le moyen de prouver leur adresse, parce qu'ils n'ont pas d'adresse officielle. Ils vivent dans l'informel. C'est un schéma qui se reproduit souvent dans les favelas. Et quand on demande aux habitants de la favela quels sont les problèmes principaux auxquels ils font face, ici, ils sont 45% à dire que leur plus grande difficulté concerne l'électricité publique. Ils n'en ont pas. 34% d'entre eux affirment que le plus gros problème, c'est l'absence de trottoirs dans les rues. Certains doivent partir avec 2 paires de chaussures, car s'ils partent avec la même paire, ils ne pourront pas éviter la boue. Les problèmes sont partout les mêmes, d'une favela à l'autre. C'est le manque de canalisation pour avoir accès à l'eau et aussi l'absence d'assainissement des eaux usées.
Et donc vous arrivez devant les autorités locales avec un dossier qui fait combien de pages par exemple?
It's like 50 pages. It's a huge report.
Cela peut faire 50 pages. C'est un gros rapport à chaque fois. En général, cela impressionne les autorités locales qui ne s'y attendent pas. Notre plus grand objectif serait de faire admettre aux mairies concernées que les favelas ne sont pas mauvaises en soi, qu'elles existent et qu'elles ont besoin d'investissement. Ce que nous attendons de ces mairies, c'est qu'elles utilisent toutes les informations que nous avons récoltées pour régulariser la situation des habitants, leur donner des adresses, nommer les rues. C'est énorme, même si cela peut paraître insignifiant. Dans ma ville, les gens disaient « Non, non, Curitiba ne compte aucune favela, parce qu'elles ont longtemps été cachées sur les bords de la rivière, sous les ponts. » Vous voyez, c'est un réel échec et personne n'a envie de l'admettre. Le Brésil connaît une certaine stabilité économique aujourd'hui. Après une période de récession, nous sommes plutôt stables. Mais nous n'arriverons pas à retrouver la croissance si nous ne prêtons pas attention aux gens qui en ont besoin.
Armel Enders, vous êtes spécialiste du Brésil, qui compte 23 millions de pauvres. Alors on l'entend bien là, ces préoccupations-là quotidiennes, elles sont assez éloignées en même temps d'une partie des thématiques de la campagne présidentielle. Pour qui vont voter les plus pauvres à 3 jours des élections?
Alors ça, c'est une grande question. Jusque-là, malgré les couches populaires, étaient attachées à Lula. N'ont pas laissé tomber Lula, même après les accusations et sa condamnation. Lula, qui était crédité de 40% d'intention de vote au premier tour.
Avant qu'il ne soit déclaré inéligible.
Avant qu'il doive retirer sa candidature.
Ça veut dire que ce vote-là se reporterait naturellement sur son dauphin, Fernando Haddad, candidat du
Alors,
Parti des Travailleurs.
Une partie une partie du transfert des voix s'est faite, mais elle est très incomplète, hein, parce qu'il y a un grand écart entre les intentions de vote qui étaient pour Lula et celles de Fernando Haddad. C'est dû aussi en partie au fait que Lula a été contraint au silence, hein, il peut absolument pas s'exprimer, et qu'on a empêché le plus possible Haddad d'associer son nom à celui de Lula. Donc ça a gêné le fait que les plus pauvres fassent le lien entre Haddad et Lula.
Concernant le candidat de l'extrême droite qui est donné favori dans la dernière ligne droite, Jair Bolsonaro.
Alors, il commence à y avoir un mouvement populaire. Dans certains quartiers des grandes villes, on a déjà cet intérêt pour Bolsonaro, notamment Rio de Janeiro, dont il est député depuis 30 ans. C'est aussi beaucoup lié... Les intermédiaires sont très importants et les églises évangéliques. Hein, il y a un tiers de l'électorat qui est évangélique, et essentiellement quand même parmi les plus pauvres. Et donc, ceux-là, qui sont extrêmement conservateurs, ont pris explicitement parti parti pour Bolsonaro ces derniers jours et doivent commencer à travailler leurs ouailles. Hein. Alors dans cette, occupation, il n'a pas été tellement question des évangéliques, hein, donc c'est très particulier.
Mais bien que le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, n'ait pas dans son programme de mesures à proprement parler sociales.
Ah, c'est même le contraire, hein. En fait, c'est un discours de haine sociale en fait, et raciale. Hein.
Haine des pauvres
haine des pauvres, haine des femmes, haine des pauvres, haine des homosexuels. Enfin, ça, c'est pas un thème qui mobilise beaucoup les pauvres. Et surtout, son candidat à la vice-présidence a aussi déclaré que tous les avantages, et lui-même, Bolsonaro, que les droits sociaux créaient des chômeurs et qu'il fallait les supprimer.
Ce qui veut dire que s'il était élu, alors on n'a que le premier tour dimanche, mais que se passerait-il pour les couches les plus populaires? Qu'est-ce qui serait clairement mis en péril comme mesure sociale à l'heure actuelle?
Bon, déjà, ce qui serait mis en péril, c'est des occupations telles que celles dont on vient de parler, hein, celle d'Osasco. Déjà parce que Bolsonaro doit voir là-dedans un nid communiste. Hein. Donc,
Ça veut dire qu'il y aurait des expulsions.
Il y aurait des expulsions et il faut pas se cacher. Une répression policière vis-à-vis des cadres de ce genre de mouvement. Hein. C'est probablement une dictature extrêmement dure qui s'abattra sur le Brésil. Et puis les mains libres aux propriétaires fonciers, aux chefs d'entreprise, pour faire le ménage qu'ils estiment nécessaire.
Le rôle des femmes, ou plutôt la place des femmes, c'est 52% de l'électorat brésilien. Il faut préciser que le vote est obligatoire au Brésil, hein, pour les personnes de 18 à 70 ans. De 16 à 18 ans, je crois qu'on peut, on n'est pas obligé de voter, mais on a le droit de vote à 16 ans, et au-delà de 70 ans, on n'est pas non plus obligé. Enfin, du coup, ça veut dire que tout le monde doit voter, y compris les personnes les plus pauvres, qui parfois ont des urgences plus importantes que celles de voter. C'est plutôt cette obligation de voter est en faveur des classes les plus populaires.
Alors, je pense que oui. Je pense que si c'était facultatif, beaucoup de pauvres n'iraient pas voter. Et c'est un électorat qu'il faut séduire. Donc, beaucoup de questions sociales seraient encore plus maltraitées qu'elles ne le sont actuellement.
Les femmes, l'électorat, 52% de l'électorat brésilien, pour qui vont voter les femmes ?
Alors, pour l'instant, le candidat que les femmes rejettent le plus, c'est Bolsonaro, ce qui semble du bon sens.
Une grosse mobilisation des manifestants.
Une grosse mobilisation, mais justement ces derniers jours, il a progressé aussi dans l'électorat féminin. Hein. Donc Haddad reste le candidat qui remplace Lula, reste le préféré des femmes, hein, de l'électorat féminin. Mais Bolsonaro commence à... Alors surtout dans les classes... il progresse à la fois chez les pauvres ces derniers jours et dans l'électorat féminin, mais là je pense plutôt dans les classes supérieures.
Avec quels arguments de la
Alors
part
là, c'est plutôt, de c'est ses plutôt, intentions de vote. En fait, c'est pas pro-Bolsonaro, c'est plutôt un rejet viscéral
du
Parti des travailleurs, de la gauche, des fantasmes, surtout toute une société d'égalité des droits, une réaction vraiment néoconservatrice, extrêmement violente et qui diabolise complètement le Parti des travailleurs, la gauche, et qui imagine que la gauche va transformer le Brésil en un immense Venezuela ou voir dans une RDA, c'est très spectaculaire.
Le rejet de la corruption, il est généralisé, évidemment.
Oui, mais c'est beaucoup un discours. C'est-à-dire que ceux qui hurlent le plus contre la corruption vont voter pour des députés et des sénateurs corrompus de manière notoire. Je pense que c'est plutôt un écran pour ne pas assumer complètement la haine sociale. Et c'est une forme de dégagisme, mais au fond... Je pense que ce n'est pas le fond du problème.
Sur les femmes, le candidat d'extrême droite, Bolsonaro, a avoué qu'il paierait un salaire moins élevé à une femme parce qu'elle peut tomber enceinte. Il avait dit aussi, il avait traité il y a quelques années une députée fédérale de traînée. Il lui avait dit qu'il ne la violerait pas car elle était trop laide. Si on reprend un peu toutes ces... On ne peut pas qualifier ça d'anecdote, loin de là, mais on est vraiment dans une culture très trumpiste. Hein.
Oui. Bolsonaro, c'est, je pense, encore pire que Trump. Hein. Et parce que bon, Trump a quand même une trajectoire d'homme d'affaires derrière lui. Bolsonaro, c'est un député, un ancien capitaine de l'armée brésilienne qui n'a pas fait une carrière militaire tout à fait très, très brillante et n'était pas spécialement bien noté par ses supérieurs. Et 30 ans de député de Rio de Janeiro, pas un projet de loi qui porte son nom, enfin une loi qui porte son nom, des votes essentiellement contre et des déclarations fracassantes mais qui visiblement font gagner des élections de nos jours.
Et qui revendique de ne pas connaître grand-chose à l'économie, précisément un domaine dans lequel le Brésil aurait besoin de gens qui s'y connaissent parce que là il faut remonter la pente quand même.
Oui, il l'avoue tout à fait et il fuit aussi les débats. Parce que, et son hospitalisation lui a sans doute rendu service, parce que dans les débats auxquels il a participé, il a assez vite montré son incompétence et ses limitations intellectuelles qui sont assez stupéfiantes. Donc il cherchait à fuir les débats. Son hospitalisation l'a servi.
Après son agression
début septembre. Et là, il continue, il ne veut pas participer à un débat avec un certificat médical, ce qui est quand même un peu gênant pour quelqu'un qui prétend diriger
le Brésil. Pour un candidat. Armel Enders, la société brésilienne que vous connaissez bien sera face finalement à ces démons, à ces défis dimanche. Comment vous sentez les choses ?
Oui, dimanche et peut-être encore plus à la fin du mois d'octobre pour le second tour.
On n'élit pas qu'un président, hein,
on
élit aussi des députés.
Oui, on élit des députés, des sénateurs. Alors probablement le Congrès sera encore plus conservateur, à droite et corrompu hein, que celui qui dont le mandat est venu à terme. Pour les gouverneurs, finalement, les partis traditionnels résistent pas mal. Et puis, de toute façon, le nouveau président... Alors, si c'est Fernando Haddad, ça risque d'être très difficile. Et puis, si c'est Bolsonaro, il y aura deux solutions. Soit il se met, finalement, il entérine le système pourri qu'il prétend combattre. Et c'est en gros ce qui commence à se passer, ce qui explique qu'il y ait quelques ralliements. Ou alors, il y a un coup d'État militaire et d'extrême droite et on ne sait pas ce que ça deviendra.
Dans tous les cas de figure, victoire du candidat d'extrême droite ou victoire du dauphin de Lula, ça sera une victoire sur une société profondément divisée aujourd'hui ?
Absolument, c'est une société profondément divisée et vraisemblablement ces élections ne résoudront rien. Hein, ne font qu'accentuer cette fracture sociale, géographique, de genre, enfin toutes les fractures du Brésil et on voit mal effectivement comment tout ça peut se raccommoder et puis renouveler profondément le système politique et l'économie et la société brésilienne.
Fracture sociale et à l'intérieur même des couches sociales hein, d'ailleurs, des groupes qui sont divisés, des familles qui sont divisées. Vous parlez souvent avec des Brésiliens.
Oui, c'est très net. Il y a des gens qui ne se parlent plus. C'est un climat qui dure, qui ne fait que s'amplifier, mais qui a commencé, qui était très sensible déjà en 2014, avec ce sentiment anti-parti des travailleurs qui est extrêmement fort.
Merci beaucoup Armel Enders d'avoir été avec nous, historienne, spécialiste du Brésil, Université Paris 8. Merci d'être passée par le studio de 7 milliards de
Brésil. Merci à vous.
Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins, journée mondiale des enseignants, carrière, salaire, considération sociale. Ce métier fait-il encore rêver ? On en parle à 10h10, temps universel sur RFI.